Et bonjour.
Bonjour, Uli Maurer, le ministre de la Défense menace de changer de département s'il n'obtient pas un budget suffisamment élevé pour financer l'armée. Il réfléchit à de nouveaux moyens pour financer les troupes. Le musée d'ethnographie de Genève ouvre ses portes au public, l'occasion d'aller à la rencontre des citoyens moins d'un mois avant la votation sur le projet d'agrandissement. Il y a 5 ans, l'ouragan Katrina meurtrissait la Nouvelle-Orléans. Le président américain se rend sur place ce dimanche. Nous rejoindrons Philippe Gassot aux États-Unis dans cette édition. Haute définition reçoit aujourd'hui le philosophe québécois Michel Sasseville. Alors faut-il introduire la philo à l'école? La réponse en deuxième partie de ce journal. Soleil au menu de ce dimanche, les températures restent en dessous des normes saisonnières. Un nouveau front de perturbation se profile pour le début de la semaine. Le ministre de la Défense, Uli Maurer, menace de changer de département s'il n'obtient pas suffisamment d'argent pour financer l'armée. Il le dit dans un entretien à la Sonntag Zeitung. Daniel Rieder, le conseiller fédéral, pourrait donc briguer un autre département.
Je ne peux plus assumer la responsabilité de l'armée si l'on n'est pas prêt à donner aux soldats la formation et l'équipement dont ils ont besoin pour accomplir leur mission. C'est ce qu'affirme Uli Maurer, qui menace par conséquent de briguer un autre département au Conseil fédéral, non pas cette année mais plutôt après les élections fédérales de 2011. Uli Maurer souhaite que la Confédération étudie de nouveaux moyens de financer l'armée. Il suggère par exemple d'inscrire une disposition dans la Constitution selon laquelle 1% du produit intérieur brut doit être dépensé dans l'armée. D'ailleurs, la Sonntag Zeitung indique qu'une initiative populaire pourrait être lancée à ce sujet par la Société suisse des officiers. C'est en tout cas ce que souhaitent les officiers de l'armée de l'air. Et puis dans le journal Sonntag, le commandant de corps Markus Gigax affirme que la Suisse devrait songer à se doter d'un système de défense antimissile pour faire face notamment à la menace terroriste. De quoi augmenter encore les besoins financiers de l'armée suisse.
Opération de charme au musée d'ethnographie de Genève. Avant la votation du 26 septembre prochain sur l'extension du musée, l'institution a donc décidé d'ouvrir ses portes au public. Objectif, faire découvrir les coulisses du musée et son équipe dirigeante. Une initiative similaire à celle qu'avait menée l'Organisation mondiale du commerce avant la votation qui la concernait. Une opération destinée à convaincre la population du bien fondé du projet d'agrandissement, Sylvie Belzer.
Bien décidé à ne pas revivre le traumatisme d'il y a 10 ans où les électeurs avaient refusé un projet de nouveau musée jugé coûteux et mal ficelé, les défenseurs du projet actuel ne lésinent pas sur les moyens. Cette fois, ce n'est pas le concept en tant que tel qui pose problème, mais celui des tilleuls à abattre pour agrandir le musée. Un argument dépassé selon les partisans de l'extension puisque le projet a précisément pris en compte ces arguments en repensant la végétation dans le quartier. C'est d'ailleurs plus qu'une majorité, c'est un vrai plébiscite politique qui soutient ce projet. Voté à l'unanimité au municipal, l'extension prévue en sous-sol a aussi bénéficié d'une union sacrée de tous les partis politiques lors de sa présentation cette semaine. Quitte à marteler l'information, comme le reconnaît Fabienne Fischer, présidente des Verts en ville de Genève.
Je crois que c'est un projet sur lequel il est indispensable d'informer encore et encore la population, notamment sur la question de l'abattage des arbres, qui est le cheval de bataille des référendaires. C'est évidemment une question qui est très émotionnelle, hein, la nature en ville, et je crois que c'est nécessaire de redire que plus d'arbres seront replantés dans le périmètre immédiat du musée que d'arbres seront abattus, et que donc le projet pour le quartier, pour la qualité de vie dans le quartier, pour la possibilité pour ses habitants de venir profiter du lieu sera grandement amélioré avec le projet.
Un projet devisé à 63 millions de francs et si les partisans du nouveau musée d'ethnographie gagnent la guerre des arbres, celui-ci ouvrira ses portes en 2013.
Un dossier préparé avec la collaboration de Tatiana Odo a signalé encore que les portes ouvertes se poursuivent encore cet après-midi de 13h à 16h au musée d'ethnographie. En France, l'université d'été du Parti socialiste qui se tient à La Rochelle s'achève ce dimanche et ce midi, ce matin, c'est le discours de Martine Aubry, la première secrétaire du parti qui a focalisé toutes les attentions. Mehmet Gultas, vous avez assisté à ce discours.
Oui, le discours qui vient de s'achever, qui était très attendu, surtout sur le volet sécurité. Cela fait 8 ans que Nicolas Sarkozy, en tant que ministre de l'Intérieur, puis président de la République, qui est en charge de ce dossier, a rappelé Martine Aubry. Or, Nicolas Sarkozy a lui-même souligné l'échec d'une décennie de politique en la matière. Pour la patronne du PS, pas question de laisser le champ libre à la droite sur ce thème. Les socialistes feront d'ailleurs leur proposition le 2 octobre prochain, a promis Martine Aubry, et d'énumérer les trois axes de la politique de sécurité de gauche. La prévention, l'éducateur doit avoir sa chance avant le procureur, a-t-elle dit. La dissuasion, nous rétablirons la police de quartier proche de la population, a assuré la chef des socialistes. Et enfin, la sanction, mais avec des outils de réinsertion. Et Martine Aubry de conclure, nous montrerons que la crédibilité en matière de politique de sécurité a changé de camp.
Mehmet Gultaz donc en direct de La Rochelle. Près de 10 000 personnes évacuées sur l'île indonésienne de Sumatra. Un volcan est entré en éruption pour la première fois depuis 400 ans, projetant un nuage de fumée et des cendres à 1500 mètres de hauteur. L'alerte rouge a donc été déclenchée. 5 ans après le passage du cyclone Katrina en Louisiane, il reste beaucoup à reconstruire. Le président américain Barack Obama se rend sur place ce dimanche pour commémorer la catastrophe qui avait coûté la vie à 1500 personnes. Une façon aussi pour le chef d'État de faire oublier la marée noire. À l'époque de Katrina, Barack Obama pourtant n'avait pas épargné George Bush et avait dénoncé son incompétence face aux événements. L'Amérique a le regard tourné vers la Louisiane aujourd'hui et le Mississippi. Philippe Gassot, vous êtes sur place.
Eh bien oui, Katrina, c'était le 29 août 2005, l'ouragan touche les côtes de Louisiane, il est 8 heures le matin. 1 200 000 personnes sont évacuées, il y aura près de 1 500 morts. La destruction se chiffre à plus de 100 milliards de dollars et c'est la catastrophe la plus chère qu'aient connue les États-Unis et il reste, vous l'avez dit, beaucoup à faire.
Alors aujourd'hui, où en est concrètement la reconstruction de la Nouvelle-Orléans, 5 ans, on l'a dit, après le cyclone ?
Eh bien, la ville a retrouvé à 80% ses habitants. Les touristes revenaient jusqu'à cette malencontreuse marée noire. La musique est toujours ici chez elle. C'est la capitale du jazz, tout le monde le sait. C'est la ville de Louis Armstrong. Mais elle a peut-être, avec Katrina, perdu son esprit, son âme. Il y a moins de congrès ici, moins de séminaires. Il y a encore des quartiers qui sont abandonnés. Beaucoup de ces habitants ne reviendront jamais. Une chose est restée, malheureusement, c'est le taux de criminalité, l'un des plus élevés des États-Unis.
D'accord, mais est-ce que pour autant, quand même, certains habitants qui ont dû donc s'exiler à l'époque sont revenus aujourd'hui ?
Il y en a qui sont revenus, mais ça n'est plus la ville qu'on a connue, car il y a des quartiers qui ont été rasés, qui ont été passés au bulldozer. Maintenant, on y voit des herbes folles, ça et là, mais ça n'est plus du tout, j'allais dire, celle qu'on appelait la Big Easy, la grande ville. Un petit peu, qui se laissait aller, qui prenait beaucoup de plaisir, qui recevait énormément de touristes, un endroit où on pouvait boire dans la rue, ce qui est interdit un petit peu partout aux États-Unis, là où on venait faire une cure de musique, tout ça semble être appartenir à un passé. Alors c'est vrai qu'il y a toujours des gens qui passent par New Orleans ou par le Mississippi, mais c'est véritablement l'esprit qui manque le plus.
Philippe Gassot, merci. Vous êtes donc notre correspondant aux États-Unis. Le premier salon roman d'apiculture se tient en ce moment à Marcelin-sur-Morge, dans le canton de Vaud. À l'origine de ce nouveau rendez-vous, 3 étudiants en agronomie. Ils souhaitent sensibiliser les visiteurs à la disparition inquiétante des colonies d'abeilles, pourtant vitales dans notre environnement. Laurence Jobin s'est rendue sur place ce matin.
Brigitte Arnold, vous êtes présidente de la Société d'apiculture de Morges et environ. On parle beaucoup des maladies qui deviennent de plus en plus fréquentes concernant les abeilles. Est-ce que c'est un réel problème aujourd'hui ?
Tout à fait. Certains apiculteurs ont perdu plus de 40% de leurs colonies lors de l'hiver dernier. Et on ne sait pas encore très bien quelles sont les causes de ces pertes.
On parle notamment de la loque européenne. Est-ce que vous pensez qu'elle est également présente ici ?
Dans le canton de Vaud, nous avons la chance de ne pas être trop touchés par la loque européenne. C'est plutôt la loque américaine qui est plus facile à contrôler.
C'est donc une bactérie ?
Tout à fait. Il faut vraiment assurer un bon suivi de nos ruches, bien vérifier la propreté, espérer qu'on ne sera pas touché.
L'écologie de toutes les civilisations a célébré l'abeille avec un sentiment mêlé de crainte et d'admiration.
Samuel Panchaud, vous êtes président du comité d'organisation de ce premier salon roman d'apiculture. Est-ce qu'il y a des mesures que vous pouvez prendre pour essayer de freiner la mort des abeilles ?
Chacun essaye un petit peu de faire à sa méthode. On ne sait plus trop qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux. C'est des essais, toujours des essais. Je pense que c'est très important que le public se rende compte qu'il y a un problème, que si des décisions politiques sont prises, que le public soutienne l'apiculture et puis que des fonds soient débloqués au bout d'un moment.
Parce qu'on oublie souvent l'importance de l'apiculture pour l'être humain.
C'est pas le fait de sauter le plaisir d'une tartine au miel le matin qui est tragique, mais toute la pollinisation qu'il y a derrière, tous les fruits qu'on consomme sont là grâce à l'abeille, faut pas l'oublier.
Et ce premier salon roman d'apiculture est encore à découvrir jusqu'à 18h ce dimanche à Marcelin-sur-Morge. S'il fait les beaux jours de la ferme Asilation, depuis cette semaine, le célèbre opéra de Mozart, Don Giovanni, est aussi à l'affiche du théâtre du Jora à Mézières ce week-end. Un Don Juan qui fait office de spectacle de rentrée pour la grange sublime Pierre-Étienne Joie.
Après le songe de Benjamin Britten en 2008, le théâtre du Jura poursuit sa collaboration avec les conservatoires romans. Les hautes écoles de musique de Genève et Lausanne préparent en effet depuis quelques années des jeunes musiciens à chanter de l'opéra. Et le vivier s'est étendu à Sion, Fribourg, Neuchâtel. Dans les parties chorégraphiques, les chanteurs-danseurs sont formés par l'atelier lausannois Rudra Béjart. Originalité, l'intrigue a lieu dans une boutique de luxe. Le décor suit donc cette veine de modernisme et de clinquant, tout en respectant le célèbre livret de Da Ponte. Metteur en scène, Regina Herr a délibérément voulu faire quelque chose de différent, mais le tout reste fidèle au chef-d'œuvre de Mozart, avec une distribution d'artistes professionnels en devenir, mais artistes déjà. Ils sont tous moins de 30 ans. Mozart en avait 31 lors de la création de Don Giovanni.
Don Giovanni de Mozart au théâtre du Jora ce dimanche encore à 20h. Et de la musique qu'on passe au sport et un mot tennis, Roger Federer aura l'honneur de disputer la première night session de l'US Open 2010. Son premier tour contre l'Argentin Brian Daboul est en effet programmé dans la nuit de lundi à mardi à 3h, heure suisse. Timea Bachinski jouera également demain. La Vaudoise sera opposée en soirée à la Chinoise Chi Tseng. Comme chaque dimanche, vous avez rendez-vous avec Haute Définition. Manuela Salvi reçoit aujourd'hui le philosophe québécois Michel Sasseville. Alors, faut-il introduire la philosophie à l'école? On écoute la réponse.
Haute Définition, Manuela Salvi.
C'est la rentrée des classes avec sa litanie de matières et de cours, histoire, géo, français ou mathématiques. Et la philosophie a-t-elle le droit de citer dans les classes? Quelle est la valeur des mots et de la pensée pour fabriquer des citoyens libres et responsables? Faut-il apprendre aux élèves à penser par eux-mêmes et pour eux-mêmes, au fond à s'étonner ensemble de la marche du monde? J'accueille Michel Sasseville, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dans les studios de Radio-Canada à Québec. Vous êtes professeur de philosophie à l'Université Laval à Québec. Quand on dit philosophie, on pense tout de suite grand texte, grand philosophe, Platon, Aristote, Kant ou encore Spinoza. C'est forcément intimidant?
Ça peut l'être pour certaines personnes, effectivement. Mais quand on dit philosophie pour les enfants, là, ce sont ces auteurs-là, mais traduits ou repenser ou représenter pour les enfants en tant que tels. Et l'idée vient d'un philosophe américain, le Matthew Lipman, à la fin des années 60.
Mais à l'inverse, la philosophie, ça intimide. Pour les enfants, on verra que ça intimide pas du tout. Au contraire, c'est plutôt un accès à la pensée. Mais à l'inverse, on dit tous philosophes, car on est tous aux prises avec les grandes questions de l'existence.
Oui, en fait, on se pose tous un jour ou l'autre, et il y en a qui se les posent toute leur vie, ces questions de fond là, qui touchent l'existence, qui touchent le bonheur. Qu'est-ce qui fait que je peux être heureux? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est l'amitié? Est-ce que c'est la justice? Et toutes ces questions-là reviennent de saison en saison, parfois dans une vie, ou de siècle en siècle, quand on regarde toute l'histoire de la philo, on se rend compte que ce sont des questions qui ont été posées il y a 2500 ans et qui se reposent encore aujourd'hui. Et la philo, elle est là pour éventuellement aider les gens à moins trouver la réponse que de se poser de mieux en mieux ces questions-là.
Ou de chercher les réponses, mais ensemble. Alors, cette expérience de pensée sur des questions essentielles, vous l'avez eue très jeune, Michel Sasseville. C'était sur le sens du mot mystère. Vous étiez à l'église, le prêtre a utilisé ce terme. Vous avez demandé à votre mère, mais maman, que veut dire mystère? Et elle vous a répondu, le mystère, c'est quelque chose que tu ne pourras jamais comprendre. C'était le début de votre parcours de philosophe.
Oui, c'est ça, exactement. Enfin, de ce que je me souviens, peut-être que ça a commencé avant, mais mes premiers souvenirs, là, ça remonte à 4 ans à peu près. De là, je me suis posé la question, mais comment ça se fait qu'on ne peut pas tout comprendre? Ça, je me souviens de me poser cette question-là. Et je pense que ça a été le point de départ de mon enquête personnelle sur le plan philosophique qui m'a conduit jusqu'à maintenant, à me rendre compte qu'effectivement, il y a des choses qu'on ne pourra jamais comprendre totalement, en tout cas. Peut-être qu'on peut les comprendre un peu plus, mais entièrement, complètement, ça semble être quasiment impossible.
Mais au moins, on essaie de les expliquer, à défaut de les comprendre.
Encore que parfois, pour les expliquer, il faut les comprendre.
Alors, à la faculté de philosophie de Québec, on en vient à la philosophie pour les enfants. Il existe un certificat de philosophie pour les enfants. Vous êtes en charge de cette formation. Alors, les enfants, est-ce que c'est un cas particulier ou la pratique philosophique, est-ce comme la lecture de Tintin, ça, c'est valable de 7 à 77 ans?
Dès l'instant que... on se met à parler, on peut commencer à philosopher, et surtout si on le fait avec d'autres, ben là, plus ça avance en âge, plus il y a de chances de rencontrer de personnes, alors il n'y a pas vraiment de limite.
Donc pas de limite, mais cas particulier, parce qu'au fond, ce n'est pas une galerie de philosophes qu'on va présenter aux enfants, quoique certains éditeurs se soient lancés dans des livres, les petits Platons notamment, hein, qui présentent les philosophes de Kant à Spinoza, mais pas forcément une galerie de philosophes, mais l'expérience de la pensée.
Oui, ben disons que c'est un petit peu plus que l'expérience de la pensée. C'est l'expérience de la pensée présentée aux enfants par le biais d'histoires où on voit si on a une culture philosophique, où on voit apparaître au passage Platon, Aristote, Kant, Descartes, sans jamais que ces noms de philosophes soient présentés dans les livres. Et lorsqu'on fait de la philo avec les enfants, ben on les invite à lire cette histoire. Et puis, à leur demander ensuite, une fois la lecture terminée, mais vous, qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette histoire? Et là, ça, c'est l'occasion pour les enfants de soulever leur propre interrogation, de dire, par exemple, en lisant l'histoire de Pixie, qui est une des histoires là, que Man a écrit, alors que Pixie dit « Je m'appelle Pixie, mais Pixie, c'est pas mon vrai nom, c'est le nom que mon père et ma mère m'ont donné ». Alors, une fois la lecture terminée, il peut y avoir un enfant ou des enfants qui vont lever la main en disant « Mais ça veut dire quoi avoir un vrai nom ?» Et là, c'est le point de départ de l'enquête que les enfants dans la classe auront autour de cette question que l'un ou l'autre a pu poser.
Est-ce que mon nom va définir mon destin ? Alors, l'art de définir, l'art de raisonner. Au fond, oui. La philosophie pour les enfants, ça part d'un présupposé que la nature de l'homme, alors il y a le vivre ensemble, mais que la nature de l'homme est aussi intellectuelle.
Ben oui, ça part du présupposé que la nature de l'homme est complexe, en fait. Qu'elle est aussi intellectuelle, qu'elle est émotive, qu'il y a une dimension sociale qui est en jeu. Et c'est la rencontre ou le dialogue entre toutes ces dimensions qui fait que, à l'autre bout, la personne qui est en train de se développe de plus en plus complètement.
Vous évoquiez la recherche commune des enfants lorsqu'ils philosophent dans la classe. Donc c'est aussi l'expérience du dialogue avec l'autre, l'expérience du vivre ensemble. C'est un état d'esprit, philosophie avec les enfants.
Oui. Je trouve que l'expression est très juste. C'est un état d'esprit, c'est une manière d'être, dans le sens où, quand on pense à la philosophie, parfois il nous arrive de penser à une activité assez abstraite, froide même à la limite, quasiment pour certains mathématiques, là, au sens logique du terme, voilà, aride. Alors que ici, ce qui est en jeu, c'est l'apprentissage d'un art de vivre avec les autres, en s'appuyant sur le fait qu'on accorde une confiance à la pensée de l'être humain, engagé qu'il est avec d'autres en train de penser. Et ça, ben, au-delà du développement de la pensée, apparaît un bon nombre d'attitudes, telles par exemple l'écoute, l'entraide, le souci pour l'autre, que quand on couple ça à la dimension critique ou à la dimension logique, ben, ça fait des êtres plus organisés et plus prêts à vivre avec d'autres en tenant compte du point de vue de l'autre plutôt qu'en ne tenant compte que de son propre point de vue à soi.
Mais il y a l'écoute, mais il y a aussi l'impartialité, l'objectivité, parce que souvent, nos pensées sont imprégnées de préjugés dont nous n'avons pas toujours conscience.
Oui, tout à fait. Un des moteurs qui a motivé Lippmann à mettre en place une telle chose, c'est-à-dire une pratique philosophique avec les enfants à l'école, c'était de pouvoir les aider, ces enfants, à se prémunir contre ceux qui veulent les endoctriner. Et une des façons d'endoctriner quelqu'un, c'est de travailler justement avec ses présupposés qu'on ne met pas sur la table, mais qui sont là et qui font que peu à peu, on entraîne l'autre à penser un certain nombre de choses sans qu'il ait l'occasion de les remettre en question. Alors, dans une communauté de recherche, il y a un souci de s'assurer que les propos qui vont être émis vont être de mieux en mieux compris par les personnes qui écoutent ces propos-là. Et ça, ben, on oublie ça trop souvent, et du coup, c'est la source d'un bon nombre de malentendus, et du coup, c'est aussi la source de beaucoup de violence.
Mais les puristes vous diront qu'on est très très loin de la pratique philosophique, qu'on est plutôt dans le développement personnel et dans la communication non violente.
Ben, c'est pas des fleuves séparés, là. Ces mondes-là, il y a moyen de réunir à la fois une communication non violente et une pratique philosophique. Après tout, depuis le début en philosophie, on a estimé que le logos, le dialogue, était une façon de contrer justement la violence. Mais sauf que, pour des raisons qui sont historiques, là, qu'il faudrait prendre le temps de refaire en peut-être plus que 20 minutes, on a mis ça de côté. Et on s'est centré sur son propre discours à soi en disant aux autres, voici ce que vous devez entendre comme vérité. Donc, alors que dans une démarche philosophique, c'est pas ça qui est en jeu, c'est l'optique du dialogue pour pouvoir voir émerger un point de vue ou une certaine vérité qu'on devrait retenir pour le moment.
Donc quand vous dites une certaine vérité, ça suppose évidemment une recherche de la vérité. Vous évoquiez la violence il y a un instant, Michel Sasseville. Est-ce que les enfants qui ont suivi les cours, entre guillemets, hein, ou la recherche philosophique dans la classe, sont moins violents, ont des jugements plus nuancés?
Il y a un programme ici au Québec, un programme qui s'appelle Prévention de la violence et philosophie pour les enfants, mis sur pied par un organisme à but non lucratif, La Traversée, à Montréal. Et récemment, l'année dernière, il y a une équipe qui a effectivement évalué l'impact d'un tel processus, pratique d'affilo avec les enfants, sur leur jugement moral, en fait. Et on constate que ça a un impact important sur le développement de leur jugement moral, leur capacité de nuancer leurs propos, de reconnaître l'existence de la violence symbolique, par exemple, si on compare ces enfants qui ont fait de la philo avec ceux qui n'en ont pas fait. Et résultat fort intéressant, c'est que tout ça s'est fait dans un milieu socio-économique défavorisé et on constate que c'est nettement supérieur en termes de résultats à ceux qui n'en ont pas fait dans un milieu socio-économique favorisé.
Mais alors, comment expliquer parfois la méfiance que suscite la philosophie à l'école? Parce que ça paraît être une recette, entre guillemets, toute simple pour éviter les incivilités et la violence.
Oui, c'est difficile à dire exactement. Peut-être que c'est en raison de l'expérience qu'on a eue de la philosophie, nous-mêmes, parce que la philosophie n'a pas toujours été présentée ainsi. Parfois, elle est présentée comme étant, de mon point de vue, malheureusement, une somme de pensées que l'on doit retenir de grands penseurs qui ont dit un bon nombre de choses fort intéressantes, mais je ne pense pas que quand ils l'ont dit, ils estimaient que ça devait être appris par cœur ce qu'ils ont pu dire.
Je serais peut-être étonné d'ailleurs qu'on apprenne par cœur.
Oui, ça se peut, c'est possible. Mais lorsque c'est redessiné et présenté de cette façon auprès des enfants, là, tout ce caractère rébarbatif disparaît. Et d'ailleurs, on voit de plus en plus d'utilisation du procédé qu'est la communauté de recherche philosophique avec les enfants, là, utilisé dans d'autres contextes que ceux de l'école proprement dite, parce que en janvier prochain, là, il y a un collectif qui sort sur les applications de la communauté de recherche, et on voit que c'est utilisé avec les personnes âgées, par exemple, avec les gens en prison, avec les analphabètes, avec donc bon nombre de publics, appelons-les comme ça, adultes, qui estime que faire de la philosophie ou penser ensemble de cette façon, c'est fort agréable. Et ça aide à donner du sens à l'expérience que l'on a, qui parfois est drôlement mystérieuse, pour reprendre le terme de tout à l'heure, là, du mystère. Quel que soit l'âge, en fait, que ce soit à 4 ans ou à 44 ans, il y a des choses qui nous embêtent et on se demande, mais comment donner du sens à cela? Vous savez, c'est surtout pas un prof en avant qui est en train d'enseigner à d'autres ce qu'ils doivent penser. C'est plutôt quelqu'un, un animateur, qui est là pour créer des conditions pour que les gens se rencontrent dans le contexte d'un dialogue où chacun est invité à penser par et pour lui-même, mais avec les autres.
Par lui-même, pour lui-même, avec les autres, c'est votre credo, Michel Sasseville. C'est une préparation, au fond, à une société plurielle. Vous avez d'ailleurs signé un manifeste pour un Québec pluraliste. Les initiants pointent deux tendances inquiétantes hein, au Québec, mais pas seulement. Le nationalisme conservateur est une société trop laïque qui refuse tout signe religieux. Souvent, d'ailleurs, ce sont les minorités qui sont prétéritées. On pense bien sûr aux musulmans. Alors, en quoi une pratique intensive de la philosophie, à tous âges, dans la classe, mais aussi, comme vous le disiez, dans les prisons ou avec les personnes âgées ou avec des adultes, tout simplement en difficulté, pourrait éviter les écueils de violence, d'agressivité, de répression, enfin d'une société dont on dit souvent qu'elle va mal.
Je pense qu'un aspect que vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est la reconnaissance de nos préjugés ou de nos présupposés. C'est une des conséquences d'un tel processus, de voir que ça ne tient pas toujours la route, de penser que parce que c'est une femme, elle est comme ceci, ou que parce que c'est un arabe, il est comme cela. Tout le monde n'a pas toutes les caractéristiques qu'on accorde à un peuple ou à un sexe. C'est un des aspects. Et on voit que la communauté de recherche est un instrument de rencontre. C'est un instrument pour prendre du temps. C'est-à-dire s'arrêter et dire, bon, on va essayer de mettre nos croyances entre parenthèses pour un temps, là, pour les examiner ensemble, plutôt que de s'assurer que ma croyance va devenir la croyance que tout le monde devrait avoir et que si vous ne l'avez pas, évidemment, vous êtes dans le champ. C'est pas ça qui est en jeu dans une démarche comme celle-là. Alors, quand on utilise des outils de la pensée, tels que la formulation d'hypothèses, la nécessité de reconsidérer ce qu'on a avancé parce qu'on n'a peut-être pas suffisamment de preuves pour pouvoir l'imposer aux autres, ce sont des conditions qui nous permettent une ouverture d'esprit. Et l'ouverture d'esprit, que ce soit dans le monde politique ou dans le monde religieux, c'est bienvenu si on espère diminuer les confrontations qui mènent à la violence.
La philosophie se décline en ce moment sur tous les tons. Les éditeurs s'engouffrent dans la brèche. Les médias évoquent, parlent aussi de philosophie. Ce n'est pas un effet de mode, c'est un impératif, un besoin de penser, un impératif civique.
Je ne sais pas si c'est un impératif civique. Ce qu'on constate, c'est que les gens retournent à la philosophie. C'est moins la philosophie qui retourne aux gens que les gens qui retournent à la philo. Ce n'est pas d'hier qu'elle est là, la philo. Mais les questions, elles, restent là. Et là, on se dit, mais comment aborder ces questions-là? Comment traiter cela de manière nuancée, de manière raisonnable, de telle sorte qu'avec les réponses qu'on pourrait se donner, on soit un peu plus heureux que sans ces réponses-là? Et la philo peut aider dans ce contexte.
Michel Sasseville, merci.
Michel Sasseville qui sera en Suisse à Genève début octobre pour une formation en philosophie pour les enfants. Tous les détails sur notre site internet hd.rsr.ch. C'était Haute Définition, rediffusion ce soir à 22h40 sur la première.
Infotrafic RSR.
Et sur l'autoroute Chiasso-Lucerne, un bouchon de 3 km s'est formé entre l'aire de service de Stalvedro et l'entrée sud du tunnel du Saint-Gothard. Cela correspond à 45 minutes d'attente. On jette un coup d'œil du côté de la météo. Caroline Kenklis.
Nous sommes influencés aujourd'hui par une masse d'air plus sec, mais froid pour la saison, ce qui explique les thermomètres guère chaleureux de la journée. Ils atteindront rarement les 20 degrés, notamment en Valais et sur le bassin lémanique. Ailleurs, un peu moins, 17 à 19 degrés en Ajoie et sur le plateau. Nous profitons d'un bel ensoleillement sur l'entier de nos régions, si ce n'est quelques bourgeonnements par endroits sur les crêtes. Cet intervalle ensoleillé ne va toutefois pas durer. Durant l'après-midi, la nébulosité va augmenter en altitude, arrivée par le nord-ouest d'une nouvelle perturbation qui prendra de l'épaisseur et chargera le ciel d'ici la soirée. Les précipitations seront elles effectives en milieu de nuit, en premier lieu sur le Jura, avant de s'étendre en toute région. Demain, la nébulosité sera omniprésente, on espère tout de même de brèves éclaircies en plaine. Lundi après-midi, il semblerait que nous ayons à nouveau des pluies, elles seront plus conséquentes le long des Préalpes. La limite pluie-neige s'abaissera jusqu'à 1500 mètres, occasionnant quelques soucis sur certains cols. Mardi, retour du soleil.
La météo, avec Café Kikodoro et son système à capsules.
Et c'est la fin de cette édition. À noter un rendez-vous demain dans notre édition de Midi et demi, le début d'une nouvelle série sur la rentrée littéraire. L'invité du journal ce lundi sera Virginie Mouza pour le livre « La vie d'adulte ». Mardi, rendez-vous avec Corinne Blue-Bosselet pour le livre « Séparable ». Une précision encore pour la fin de cette édition sur Don Giovanni, donné aujourd'hui au Théâtre du Jora de Mézières. Le spectacle est à 17h et non pas à 20h comme annoncé précédemment. Merci à Eric Yutze et Sandro Lichy pour la technique. Bon dimanche à notre écoute. Dans quelques secondes, il sera 13h.